VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Conakry, 14h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Le Nigeria a assuré le Cameroun voisin que le territoire nigérian ne serait pas utilisé par des forces voulant déstabiliser le régime de Yaoundé. Cette mise au point intervient après l'extradition la semaine dernière par le Nigeria de Sisiku Ayuktabe, responsable d'un mouvement séparatiste anglophone camerounais, et de 46 de ses partisans à la demande de Yaoundé. Une mesure qui a suscité les critiques du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. La décision a été prise pour préserver l'unité et la souveraineté du Cameroun, a souligné le conseiller nigérian pour la sécurité nationale, Mohamed Monguno, lors d'une réunion bilatérale lundi à Abuja, consacrée à la sécurité frontalière. Et toujours concernant l'agitation anglophone au Cameroun, les États-Unis condamnent les violences dans les régions anglophones du pays, notamment le meurtre de deux gendarmes camerounais dans le village de Mbingo, dans la province du Nord-Ouest, et d'un militaire à Bamenda. C'est ce que souligne un communiqué du département d'État américain qui présente les condoléances de Washington aux familles des victimes. Les États-Unis demandent aussi à Yaoundé de respecter les droits fondamentaux des 47 Camerounais extradés par le gouvernement nigérian au Cameroun le 26 janvier. Beaucoup d'entre eux ayant demandé l'asile au Nigeria. Ces personnes sont actuellement en détention au Cameroun pour leur possible implication dans les violences dans les régions anglophones, note le communiqué du département d'État. RDC, un chef de milice soupçonné d'avoir semé la terreur ces dernières semaines au Kasaï dans le centre du pays, s'est rendu lundi aux autorités provinciales. Le chef Kalamba Dilondo est venu de lui-même à Kakenge. Il a été reçu par le gouverneur de province qui l'a remis au commandant du secteur opérationnel de l'armée congolaise dans la région, a déclaré à l'AFP Yakobo Pembelongo, administrateur du territoire de Mweka au Kasaï. Kalamba Dilondo est accusé par les autorités congolaises d'être à la tête d'une milice qui a semé la terreur à Kakenge. Avancée dans le processus de désarmement des ex-rebelles en RCA, un premier groupe d'une centaine d'anciens combattants ayant participé au projet pilote du programme de désarmement a été intégré lundi à l'armée nationale après 4 mois de formation. Les détails avec Abdourahmane Dia.
Il s'agit du premier groupe issu du projet pilote du programme de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement. Ce processus a souvent fait l'objet de critiques par son immobilisme et son inefficacité. Le président Faustin Archange Touadéra, présent à la cérémonie d'intégration de ces nouveaux membres des forces armées, a exprimé son grand plaisir de voir ces résultats, reconnaissant toutefois que l'immense chantier du DDRR n'a pas eu de réel succès par le passé. Le pays a connu depuis les années 2000 3 programmes de désarmement qui n'ont jamais abouti faute de moyens. Le président Touadéra a précisé que 139 volontaires sont prêts à démarrer un nouveau cycle de formation de 4 mois. 240 autres ont été réorientés vers des programmes de formation économique avec le soutien de la Banque mondiale.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
La lutte contre les djihadistes en Afrique de l'Ouest maintenant. Ouverture ce mardi à Niamey du sommet des chefs d'État du G5 Sahel, qui regroupe la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Objectif de cette réunion, à laquelle participent tous les chefs d'État du groupe, plus la ministre française de la Défense, Florence Parly, boucler le financement de la force militaire conjointe de l'organisation et assurer sa montée en puissance. Lancée début 2017, cette force conjointe a pour mission de combattre les groupes djihadistes qui sévissent dans la région sahélienne. Lors du sommet, les chefs d'État présents, à savoir les présidents burkinabé, Rochman Christian Kabore, tchadien, Idriss Déby, mauritanien, Mohamedou Abdelaziz, malien, Ibrahim Boubacar Keïta et nigérien, Mahamadou Issoufou, vont plancher sur la recherche des financements complémentaires pour la force conjointe, qui doit être composée de 5000 soldats des 5 pays impliqués d'ici à la mi-2018. Rappelons que les groupes djihadistes dispersés lors de l'intervention française au Mali en 2013 ont retrouvé depuis un nouveau souffle dans le nord et le centre de ce pays, malgré la présence de 12 000 casques bleus de l'ONU et de la force française Barkhane, qui compte 4 000 hommes dans la région. Les islamistes multiplient les attaques contre les forces internationales et l'armée malienne et ont même étendu en 2017 leurs actions à la région frontalière avec le Niger et le Burkina Faso, deux pays qui sont aussi régulièrement touchés par les incursions djihadistes. En Guinée, Amadou Salif Kébé, président de la commission électorale nationale indépendante a promis lundi une publication d'ici à la fin de la semaine des résultats des élections locales de dimanche. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Je demande aux uns et aux autres de se calmer, qu'ils n'aient pas peur des résultats, a affirmé M. Kébé, assurant qu'il n'y a pas d'élection sans contestation. Des responsables de l'opposition comme du pouvoir ont évoqué des fraudes lors de ces premières élections locales depuis 2005. Des opposants ont dénoncé des irrégularités. Selon eux, certains chefs de quartier ont profité de la baisse d'affluence en fin de journée pour distribuer à des partisans du pouvoir les dizaines de procurations. Le président de la CENI n'a ni confirmé ni infirmé le taux de vote par procuration, mais s'est plaint du taux de participation qui semble avoir été un peu faible. À Kindia, dans l'ouest, des affrontements ont fait un mort et plusieurs blessés hier. Les forces de l'ordre ont tenté d'éloigner les militants de l'opposition qui entouraient un centre de dépouillement. La CENI espère publier les résultats vendredi.
Afrique du Sud maintenant, la semaine s'annonce cruciale pour le président sud-africain Jacob Zuma. La direction de son parti, l'ANC, a convoqué pour mercredi le comité national exécutif, l'organe supérieur à Bill. L'idée a révoqué M. Zuma. Ces assises se tiendront un jour avant l'adresse du chef de l'État à la nation devant le Parlement. La décision de la direction du parti a été prise à l'issue d'une réunion extraordinaire du comité de travail de l'ANC qui a évalué le rapport de la structure mandatée pour négocier le départ du président Zuma et la mise en place de la transition. Pour plus de précision, Eric Manirakiza a joint en Afrique du Sud l'analyste politique Achille Mbembe.
Il est fort possible que ce mercredi dans la nuit, l'ANC décide effectivement de mettre fin à la présence de M. Zuma à la présidence de la République sud-africaine.
Mais le comité de travail n'a pas le pouvoir de le destituer.
C'est la raison pour laquelle justement le Conseil exécutif national est convoqué pour mercredi dans la soirée. De cette réunion du Conseil national exécutif, on risque de sortir justement la décision de congédier M. Zuma.
Est-ce que Ramaphosa dispose d'une majorité suffisante pour justement le faire partir?
Il dispose, Ramaphosa, d'une majorité relative, telle qu'elle est sortie justement des dernières élections lors du congrès de l'ANC. L'hypothèse est que entre décembre et début février, un travail de fond a été effectué pour faire croître cette majorité. Et donc, le pronostic est que la majorité des membres de ce conseil suivra les instructions de M. Ramaphosa et déposera M. Zuma. Faute de quoi, disons, le Parlement prendra le relais et votera une motion de non-confiance qui fera chuter le gouvernement.
Comment vous expliquez la résistance de M. Zuma? Il a refusé de démissionner lors de la réunion de dimanche soir.
M. Zuma a peur d'aller en prison. M. Zuma, dans les conditions actuelles, risque de sortir du palais présidentiel pour aller tout droit devant les tribunaux. Et donc, j'imagine qu'il voudrait obtenir de l'administration M. Ramaphosa, ou de ceux qu'il soutient, la certitude qu'il ne sera pas poursuivi. Et donc, j'imagine que dans les négociations en coulisses qui ont lieu, M. Zuma essaye d'obtenir l'immunité par anticipation, non seulement pour lui-même, mais aussi pour l'ensemble de sa famille. Mais la stratégie qu'il poursuit est très risquée, à la fois pour lui-même, pour l'ANC et pour l'Afrique du Sud en général. L'ANC risque d'en sortir plus divisé qu'auparavant, et pour un pays qui a besoin de stabilité, qui a besoin d'être gouverné et qui a besoin de corriger la mauvaise direction qu'il a suivie au cours des 10 dernières années. Mais encore faut-il souligner que dans cette affaire, l'ANC n'est pas le seul acteur. C'est-à-dire que le fait de n'avoir pas confronté à bras-le-corps sa crise interne a fait en sorte que la gestion de cette affaire maintenant lui échappe. Ou en tout cas, ils ne sont pas les seuls protagonistes. Les partis de l'opposition sont aux aguets, la société civile également, les tribunaux et évidemment les milieux d'affaires.
Achille Mbembe à Johannesburg, en Afrique du Sud. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.